Campagne, bonjour. Nous sommes encore dans le département de Haute-Marne qui s'est donné comme priorité du moment l'insertion professionnelle. Avec Pôle emploi et la région, la Haute-Marne propose différents parcours d'insertion aux personnes tributaires, je dis bien tributaires à chaque fois du RSA. Un programme adapté à la personne après validation des acquis est élaboré, qui va des ateliers linguistiques, par exemple d'apprentissage du français, à des formations qualifiantes. À ce titre, un dispositif a été lancé en décembre 2017 dans l'arrondissement de Saint-Dizier sous le nom de Cap Parrainage. Il s'agit de mobiliser les entreprises dont les cadres mettent à disposition du chercheur d'emploi un peu de temps, d'expérience, de connaissance des besoins des entreprises pendant 6 mois, raison de 2 rencontres par mois quand même. Le chef ou cadre d'entreprise apporte ses conseils et participe à la préparation des entretiens d'embauche. Il y a une 30aine d'entreprises qui ont déjà rejoint ce réseau qui s'est développé dans d'autres départements. Le site c'est cap-parrainage.com. Je vous donne l'adresse à titre indicatif car sur la carte des réseaux de ce site, il n'y a pas de mise à jour. Par exemple, en cliquant sur l'ancienne région Champagne-Ardenne, il est mentionné qu'aucune structure n'existe à cet endroit. On va bientôt écrire un guide de la communication en 10 leçons si cela est nécessaire. Certaines initiatives méritent un bon relais, comme les 2 exemples du jour. D'abord, la démarche salutaire du collège Les Vignes du Cray à Protoix pour son programme Locavore anti-gaspillage est totalement engagé dans le développement durable. Hervé Simonel, chef cuisinier du collège, va s'en expliquer. Et puis une agence dont l'intérêt est national dans sa démarche de promotion de l'hébergement insolite. Hébergement dont la définition nécessite quand même quelques précisions. Nous poserons la question à Adeline Lenoir, créatrice de l'agence Hôte Insolite.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Hervé Simonel, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
Hervé, vous êtes chef cuisinier de la cantine du collège Les Vignes du Cray à Protoix. Vous y êtes installé depuis 4 ans, mais depuis 2013, un principe de repas locavore a été proposé aux élèves. Alors, il s'agit d'éviter le gâchis, les déchets, d'éviter les produits industriels. Pour vous, c'est valorisant dans votre métier?
Ben, pour moi, c'était déjà ma façon de penser, de travailler. Donc, je suis venu juste au démarrage faire un petit remplacement de 3 mois. Et comme j'ai vu que le conseil départemental de la Haute-Marne avait cette ambition, j'ai accepté de continuer à travailler dans le collège et j'ai mis toute ma conviction, tout mon savoir. Ça s'est fait relativement vite, mais heureusement, il y avait un ensemble de gens convaincus. Il y avait la principale à l'époque, la gestionnaire, les professeurs, le cuisinier aussi, hein, qui, si le cuisinier, le chef de cuisine n'est pas convaincu, ça ne peut pas marcher également.
Ça, c'est évident. Et est-ce que vous arrivez à vous approvisionner localement pour constituer les menus de la semaine?
Alors, au démarrage, c'était pas facile. Il fallait mettre en confiance également les producteurs, déjà les trouver, parce que faut avoir une autre méthode de réflexion. C'est-à-dire que quand on établit des menus, on peut pas dire que dans 15 jours ou dans 3 semaines, on aura des radis ou de la salade. Il y a tous les aléas, surtout le temps. Donc, faut rester plus vague en disant ça sera des crudités. Et on s'adapte le jour, quelques jours avant, avec les producteurs, on se rapproche d'eux, on commande. Et s'il y a des manques, ils peuvent trouver d'autres alternatives pour changer le menu à la dernière minute.
Alors, l'avantage, c'est évidemment, d'abord, c'est d'une meilleure qualité. Comme je disais, c'est valorisant pour votre travail, mais vous êtes engagé dans cette logique depuis un moment. Et puis, il y a l'aspect éducatif pour les élèves, les collégiens, qui redécouvrent les saveurs et les vrais goûts.
C'est ça, comme on est à la campagne, ceux qui m'ont aussi apporté des producteurs locaux, c'est souvent de leur famille. Donc, c'est plus valorisant. Ils viennent travailler également en cuisine par le biais du volontariat, avec autorisation des parents pendant les heures de perne. Donc, quand ils passent au self, c'est plus du tout les mêmes rapports. Bon, ça a donné du sens, si vous voulez, à tout ce qui se faisait au niveau éducatif.
Le résultat, c'est que la quantité de déchets est passée de 15 kilos à 1 kilo par repas. C'est ça?
Oui. Je dirais que là, je parle uniquement des déchets qui se passent en cuisine, mais on peut aussi parler de ce qui reste en cuisine. Alors moi, je dirais que sur une production, si on fait le calcul de tout, et ça, c'est pas uniquement à notre collège, c'est un petit peu, je dirais, dans toutes les collectivités, j'estime que ça tourne autour de 50% de pertes.
Oui.
Donc là, nous, rien que sur les déchets élèves, effectivement, on a fait une diminution de déchets qui va de 93 à 95% en quelques années, quoi.
Et vous êtes à zéro déchet en cuisine maintenant ?
En cuisine, pratiquement, oui. C'est pour ça qu'on chiffre plus du tout les déchets cuisine. On recycle, on retravaille, on repropose très vite, en respectant toutes les normes d'hygiène. Mais...
Et ça fait partie d'un ensemble, hein, parce qu'il y a un jardin pédagogique. Et le collège va passer bientôt, définitivement, en bâtiment passif.
Oui.
C'est une belle initiative. Il y en a d'autres, mais celle-ci assez particulière, puisque, comme vous l'avez compris, l'engagement en transition écologique est total, tant au niveau du site, du bâtiment, que des produits utilisés, de la cuisine proposée, du jardin pédagogique et de l'entretien durable des espaces verts, comme c'est le cas à ce collège de Protoy. Vous allez trouver un lien avec le collège à nos pages d'émission. Merci Hervé.
Avec plaisir. Je voulais quand même souligner une petite chose, c'est que Gérard Leblanc et Catherine Guenot, qui est donc de Média Création, ils veulent nous tourner une bande-annonce qui sera diffusée sur Internet, qui est dans le but de trouver des financements pour la création d'un documentaire qui sera filmé l'année prochaine. Ils veulent surtout nous montrer que il est possible de manger bio, parce qu'on fait maximum en bio, local, tout en baissant le prix de revient. Il faut savoir qu'au démarrage, le prix de revient était à peu près de 2 euros. Et là, on a énormément augmenté les produits locaux, des produits de qualité. Et nous sommes maintenant à 1,57 €. Si toutes les cuisines des collèges de la Haute-Marne travaillaient de la même façon, le conseil départemental, ils économiseraient 300 000 euros. Le documentaire, nous espérons que ça puisse inciter d'autres... cuisine de la restauration collective, pas uniquement des collèges, quoi.
Ouais. En tout cas, vous prouvez qu'on peut manger mieux pour moins cher. C'est ça qui est bien.
Voilà.
Le lien avec le collège Les Vignes du Crêt de Protoy à nos pages d'émission. Merci Hervé.
Merci, au plaisir.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Un mot sur un festival d'été en Haute-Marne, le festival Cafarnaüm, mélange de théâtre de rue et de musique qui se tient sur le site des vestiges du château de la Fauche, forteresse érigée au XIIe siècle. On doit ce rendez-vous à l'association Anachronique, basée à Bourmont. Il y a plein de jeux de mots dans les noms. Petite cité de caractère, nous annonce fièrement Arnaud. On aime l'esprit qui se dégage de ce collectif et des événements qu'il crée. 150 bénévoles qui s'activent pendant 20 jours. On inclut des équipes des réfugiés du CADA, des personnes en situation de handicap, et puis on aime également les circuits courts d'alimentation, de la restauration et de la buvette du festival, tout comme l'extension du domaine de la lutte culturelle au-delà de ce temps fort, avec une saison culturelle justement bien fournie. Le festival aura lieu les 22, 23 et 24 août, et si vous voulez goûter au lieu avant ces dates, l'association Médiévalis organise samedi et dimanche sa troisième fête médiévale sur le site du château, cafarnaüm.com. Adeline Lenoir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice d'une agence originale, Haute Insolite, basée à Vivet. Le principe, c'est de former, de guider des personnes qui veulent créer de l'hébergement insolite. Alors, d'abord, une première question. Quels sont les critères pour qu'un hébergement soit qualifié d'insolite ?
Alors, il y a des critères qui vont être différents. Le critère que moi, je retiens, c'est les hébergements légers et démontables. Les tipis, les yourtes, les cabanes dans les arbres et tous les nouveaux hébergements un petit peu moins connus qui vont être des dômes, des tiny houses et de plus en plus également de maisons de hobbits, les maisons enterrées sous terre.
Oui, on en voit de plus en plus. Mais Adeline, ça paraît simple. Les hébergeurs qui ont envie de créer ce type de lieu d'accueil n'ont pas besoin de passer par une formation, a priori.
On pourrait croire, et en fait, la formation, je vous dirais qu'elle est plutôt intense sur 3 jours, parce que notamment au niveau réglementaire, c'est très très compliqué. Et le principal frein au développement de l'hébergement insolite, c'est l'urbanisme. C'est-à-dire que actuellement en France, c'est très difficile de trouver un terrain qui va pouvoir accueillir des hébergements insolites, parce que les règles d'urbanisme protègent notamment les terrains qu'on va choisir en premier, c'est-à-dire finalement les terrains à l'extérieur des villages et qui vont être un petit peu jolis, ils sont souvent protégés.
Il faut obligatoirement s'installer sur un terrain constructible ?
Oui, tout à fait. Contrairement à ce qu'on entend souvent ou à ce qu'on peut voir sur Internet, en fait, en France, on ne peut absolument rien construire sur du non constructible. C'est comme en français, non constructible égale absolument rien n'est possible, même si on déplace l'hébergement. C'est-à-dire que les hébergements sur roues ça change rien du tout qu'ils puissent être déplacés de quelques mètres une fois tous les 3 mois, en fait.
Il y a une forte demande. Vous avez formé une 50aine de personnes l'année dernière. Et la plupart du temps, ce sont des personnes en reconversion professionnelle.
Je dirais même 95% des personnes que je reçois sont des personnes soit qui vivent en milieu urbain et qui veulent se rapprocher de la nature, soit qui sont déjà en province mais qui veulent changer complètement de vie. Donc souvent derrière, il y a aussi un aspect de vie un peu plus écologique.
C'est une chose qui ne s'improvise pas, qui se prépare, qui parfois peut prendre énormément de temps. Vous les alertez, ces candidats à l'installation, à l'hébergement insolite?
Alors oui, notamment par rapport à l'urbanisme, ça prend beaucoup de temps pour ouvrir un projet.
Il y a beaucoup de flou concernant l'hébergement insolite, parce que on dit que la France est un des pays les plus fournis dans ce type d'hébergement, mais en même temps on est incapable de dénombrer ce type d'hébergement sur notre territoire.
Oui, il n'y a pas de chiffre officiel qui existe. Il y a une entreprise qui est spécialisée sur la communication sur l'hébergement insolite, qui arrive à faire des chiffres, mais il n'y a pas de chiffres officiels qui nous permettent de donner de l'information, par exemple à un banquier ou à son maire, ou pour des subventions notamment.
Et il faut faire avancer une réglementation, ouvrir peut-être un salon professionnel qui n'existe pas en France, alors qu'il peut exister ailleurs, exemple en Belgique ou en Angleterre.
Exactement. En Belgique, depuis longtemps, ça fait maintenant 12 ans qu'il y a déjà un salon qui est dédié à l'hébergement insolite. Et puis en Angleterre, c'est un petit peu plus récent, mais c'est un très gros salon. C'est quelque chose qui manque en France, parce que ça permettrait un petit peu de structurer l'hébergement insolite. Et ce qui manque également, c'est la création d'une fédération, c'est-à-dire que les hébergeurs se regroupent, en fait.
Vous êtes sur le territoire de la Haute-Marne, qui se partage avec le Nord-Côte d'Or, le futur 11e parc national. C'est un atout pour installer de l'hébergement insolite?
Oui, tout à fait. Le parc national a vocation à, en fait, susciter un petit peu ce genre d'hébergement, forcément. Et du coup, j'ai fait une formation spécialement pour les porteurs de projets en hébergement insolite du territoire du futur parc, avec 6 personnes qui vont s'installer dans les prochains mois sur le territoire.
Prochaine formation, 1er au 4 juillet, du 9 au 12 septembre, ouvrir des hébergements insolites. Et puis, il y a une formation aussi, maison d'hôtes écologiques, autonomes et zéro déchet. Alors là, c'est très prochainement, 25-28 juin et 24-27 septembre, ainsi que 26 et 29 novembre pour toutes les dates. Oui. Donc, apparemment, il y a différents volets de formation.
Oui, tout à fait. La formation maison d'hôtes autonome et zéro déchet, c'est quelque chose qu'on lance avec des collègues qui sont experts sur tout ce qui est autonomie, initiation à l'environnement, parce que donc c'est vraiment un métier. Donc on lance ça parce que c'est pareil, il y a déjà une demande de la part des hébergeurs, et surtout je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour inciter nos clients à se comporter de façon un peu plus écologique, sans forcément contraindre ses vacances, en fait, c'est ça le but aussi.
L'adresse au pluriel, hôte-insolite.com, la page Facebook a la même adresse. Merci Adeline.
Merci à vous.
La semaine prochaine, nous terminerons la saison avec la Côte d'Or. Et puis je rappelle, pour des prévisions futures d'une prochaine saison, New Look des carnets de campagne, les Côtes d'Armor, les Ardennes, le Finistère et le Morbihan se présentent en ligne de mire, Chamarandes, Choignes, Haute-Marne. Nicolas Stoufflet, c'est le jeu des 1 000 euros.